traer le contrôle subit une recentralisation. Un contrôle qui, dans le capitalisme contemporain, s'exerce à travers la production de services indispensables à son fonctionnement. Services qui concernent les banques, la finance, mais aussi l'innovation et le savoir. Le contrôle est une pratique. Ça veut dire qu'il consiste dans la production des inputs qui concentrent dans des lieux déterminés la capacité du contrôle global. On a critiqué souvent Sassen pour la rigidité de ce modèle, qui aurait quelque chose de déterministe, où il n'y aurait qu'un espace très réduit pour l'antagonisme. Mais, à bien lire les textes de Sassen, je crois qu'il est possible de trouver des indications suffisamment claires de la conflictualité qui s'agite dans les métropoles. Elle parle clairement d'une construction des capitales mondiales dans laquelle le conflit n'est pas uniquement concurrence, mais aussi le conflit qui se développe à l'intérieur des capitales mondiales. Sassen a expliqué que l'importance revêt tout. Excusez-moi. Sassen a expliqué que dans les villes globales a lieu une extrême polarisation sociale. Elle a beaucoup de fois souligné l'importance revêtue par les migrants dans cette réalité. Les capitales mondiales sont marquées par une homogénéité qui fait signer de véritables lignes de frontières intérieures. Nonobstant les énormes richesses, elles ne sont pas en mesure d'assurer le bien-être à la majorité des habitants. Le conflit est inscrit d'une façon ancrée dans l'édification même des structures de pouvoir et de contrôle qui caractérisent ce type de ville. Et toutes les villes globales ont des structures sociales semblables, qui comportent, d'un côté, les nouvelles élites de la connaissance et de l'information, de l'autre, les nouveaux parias du travail précaire et de l'économie informelle. La Global City se présente comme un mélange de quartiers où se concentrent les centrales bancaires et les grands édifices d'architecture élégante destinés aux professionnels, aux bureaucrates et aux employés de haut niveau, à côté des quartiers de la misère, des zones de prostitution. Manhattan a besoin du Bronx. L'élite a une mobilité énorme, une véritable classe dominante transnationale, avec des goûts communs, des standards globaux et des réseaux de communication particuliers. La mobilité des parias s'exprime au contraire dans la chaîne migratoire, dans laquelle l'expérience personnelle et le désir ont un rôle déterminant. Et les parias ne sont pas uniquement victimes, ils sont des sujets actifs, ils craignent des problèmes, se multiplient au-delà du strictement nécessaire pour le fonctionnement des villes globales, élaborent des stratégies de survivance. Ils sont là pour exiger leur partie de la grande tarte à la crème. Pas facile les éliminer, de les circonscrire. L'élite a besoin de travail peu payé, de babysitters, on va à l'opéra, des gardiens, des Pony Express, des travailleurs sans défense syndicale. Peut-être c'est à cause de la complexité des problèmes qu'une situation pareille pose que se convertit l'île globale en historien des élites du XIXe siècle, comme le Berlinois Hans Reif. Ou megacities. D'autres théories explorent la situation des villes géantes du tiers-monde. Des auteurs comme Chakraborty mettent en doute la possibilité de déchiffrer ce qui se passe dans les mégacities avec des paradigmes occidentaux. Il y aurait, par exemple, une spécificité historique et culturelle qui empêche de lire la croissance des villes indiennes avec des paramètres eurocentristes ou coloniaux. Même Aryuna Padurai, dont j'admire le travail, a pris à cet égard des positions ambiguës. Il a soutenu que le flux de marchandises, capitaux et idéologies s'autonomise de manière croissante. L'autonomie du culturel est certainement très forte dans la réalité de la pratique politique du subcontinent indien, comme on l'a vu clairement pendant l'occasion du Forum mondial à Mumbai l'année passée. Mais je crois qu'il s'agit dans ce cas d'un malentendu, car il me semble au contraire que la politique, l'économie et la culture forment dans la société globale un complexe inextricable, et que le capitalisme se présente aujourd'hui avec des intérêts énormes pour la culture et le savoir. Pour cette raison, poursuivre le fantôme d'une altérité culturelle dans l'édification d'une deep démocratie, pratiquant une lente et progressive politique de la patience, me semble risquer de rater un rendez-vous avec l'histoire. Il y a de toute façon des autres réflexions redoutables, en particulier celle du géographe allemand Fred Scholz, qui a élaboré une hypothèse très intéressante et beaucoup pessimiste, sous le nom de théorie de la fragmentation. La mondialisation, selon Scholz, a des effets mal compris, surtout pour ce qui concerne le tiers-monde. Pour Scholz, passé l'époque ingénue de l'enthousiasme des auteurs qui avaient caractérisé la première vague de la recherche sur la mondialisation, inspirant l'œuvre d'auteurs comme David Held, nous nous trouvons maintenant confrontés à des données qui montrent qu'il y a développement seulement dans les global cities, tandis que la mère de la pauvreté qui se trouve au dehors connaît une véritable stagnation. Dans ce contexte de déséquilibre croissant, les villes géantes du sud se transforment et connaissent une dimension fonctionnelle nouvelle et une lourde modification de leur structure sociale qui se fragmente. Dans son étude sur Karachi, publiée en 2003, Scholz a montré comment, avec l'entrée dans un marché mondial incontrôlé, l'économie de la ville a évolué en direction de l'informel et de l'économie criminelle, avec des connexions très étroites avec les trafics d'armes et de drogues. La production prévalente se concentre sur la production des marchandises à bon prix, réalisée en exploitant une force de travail exportée sans respect de la législation nationale et internationale, tandis que se réduit la production des marchandises de haute qualité. Même dans son étude sur Dhaka, en 2001, Scholz a indiqué une claire tendance à la fragmentation de la ville. Dans ces derniers cas, il y a des quartiers exclusifs, des quartiers de bananiers, où résident les élites technologiques globalisées, entourées par une série interminable de quartiers misérables. Seulement certains fragments intérieurs de la ville sont intéressés par la mondialisation. Seulement certains fragments sont intégrés dans les réseaux plats. Le reste, c'est périphérie inutile. Cette périphérie est parcourue par des forces farouches de retribalisation, nationalisme, fondamentalisme. La violence croissante caractérise ces territoires, dont les frontières intérieures sont contrôlées par des bandes criminelles. À Dhaka, comme à Karachi, existent des zones impénétrables, no-go areas, où résident les groupes avec les salaires plus bas, surtout immigrés qui arrivent de l'Inde, de l'Afghanistan, du Bangladesh. Il s'agit de morceaux de villes qui ne sont pas liés entre eux comme les parties d'une même ville et qui sont caractérisées par l'insécurité et l'absence d'espace public. Les zones impénétrables contrastent brusquement avec les quartiers riches contrôlés par les polices privées, l'équivalent pour le tiers-monde des gated communities américains. Dans ces quartiers, on retrouve un panorama familier, édifices projetés par des architectes, restaurants de luxe, centres commerciaux, parcs et jardins. La ville se fragmente dans une série d'enclaves sociales qui ne communiquent pas. Tandis qu'une partie des savants juge que les mégacities ne sont que des agglomérations dans lesquelles il y a une concentration inouïe de population qui se réalise avec une vitesse épouvantable, de nombreuses autres études Faut remarquer que les mégacities jouent un rôle important à niveau local et certaines fois au niveau global. Les recherches plus récentes sur Istanbul ont montré, par exemple, que la ville concentre et alimente des réseaux d'économie informelle qui ont leur référent très loin, ou les circulations d'argent d'origine occulte ou illégale qui renvoient à certaines villes russes, mais aussi à Bucarest, à Naples, au Alger et dans les derniers temps aussi à Milan. Les sociologues allemands qui ont étudié le cas du développement d'Istanbul dans les dernières décennies ont dessiné des réseaux complexes qui m'ont donné l'idée qu'il s'agit dans ce cas d'une véritable global city de pauvres. Dans la même direction vont les études qui insistent sur la shanghaïfication de Bombay, en soulignant l'importance de la mégacité indienne sur le tableau mental, importance qui dérive du fait d'être intéressé par une série de trafics et d'échanges qui touchent les couloirs asiatiques, mais sophistiqués de la grande circulation des capitaux immatériels et des informations. Mais alors, si l'on peut parler des villes globales des pauvres, des villes qui ont une importance mondiale pour l'organisation des flux d'argent liés aux économies criminelles occultes, il faut découvrir les liens qui existent entre ces niveaux et les niveaux de la circulation majeure, explorer les implications entre la croissance de certaines mégacities et les pouvoirs accrus des villes globales. Malheureusement, les tentatives dans cette direction ont été jusqu'à maintenant isolées. Saskia Sassen a essayé des explorations dans cette direction, mais nous d'une vision d'ensemble. La seule information que nous possédons à présent, c'est que les réseaux mondiaux des villes en formation ne respectent pas la hiérarchie officielle et acceptent sans problème les dérivés des économies noires, des bazars et informels. Et venons à parler un petit peu du conflit et de lutte, pour terminer la dernière partie. Si donc l'évolution du capitalisme a complexifié le rôle des villes et lui a confié un rôle nouveau avec l'attribution aux villes de responsabilités, tâches qui j'ai dit étaient prérogatives des États, nous nous trouvons confrontés à une réalité urbaine dans laquelle s'entrelacent les différents plateaux de l'action, un plateau local, un plateau national, un plateau mondial. Justement pour ça, les métropoles contemporaines deviennent le lieu privilégié d'expression de la conflictualité globale, le lieu dans lequel la conflictualité peut se concrétiser, comme en elle se cristallise le flux de l'économie globale, se matérialise les relations d'exploitation, sont attirés les migrants. C'est aujourd'hui le lieu où peut se concrétiser un conflit qui ne peut pas s'exprimer dans la circulation. Hommes, marchandises, informations doivent se fixer pour être mis à valeur. Et ce moment est décisif pour les matérialisations du conflit. Si le XXe siècle a été le siècle de la croissance des métropoles, le XXIe siècle promet d'être l'époque dans laquelle le conflit devient urbain et interurbain. Dans le réseau mondial des villes, la politique représente un des facteurs les plus importants et améliorés. Si on examine l'énorme travail de recherche mené depuis des années par les savants qui se groupent autour du Globalization and World Cities Study Group and Network, on constate l'absence évidente d'indicateurs politiques. La difficulté majeure du travail impossible de tracer la cartographie de la nouvelle hiérarchie urbaine dérive de la difficulté des cas instruments quantitatifs des facteurs métaphysiques tels que le prestige, le pouvoir, l'influence politique. L'orientation principalement économique produit des résultats contre, comme l'ont montré les recherches de Peter Taylor, qui s'est attaché à trouver des critères capables de mesurer précisément les considérations uniquement les investissements dans une ville beaucoup plus importante et puissante que Washington, qui a un rôle économique relativement faible. Saskia Sassen, qui est bien consciente de ce type de problème, a déclaré une fois que ce qui réellement échappe à ce cadre interprétatif, c'est la praxis du gouvernement global. Et il y a aussi un autre aspect des limites politiques de cette approche. Une analyse qui reste prisonnière d'un passage trop étroit entre théorie et pratique n'arrive pas à rendre compte de la réalité des mouvements, se multiplie. La cause n'est pas la croissance de la pauvreté. L'équation vulgaire entre la paupérisation et la révolte est simplificatrice. Ça remonte pour des raisons de conscience, pas de misère. Il s'agit d'une rébellion, dans certains cas, silencieuse, qui remonte souvent les formes d'un Widerstand recht, d'un droit de résistance souterrain, mais continuellement pratiqué et exercé sur le terrain de la ville. Par exemple, dans la résistance obstinée à la politique de destruction des bidonvilles, où se cache derrière la diffusion des croyances millénaristes, comme l'ont souligné Azef Bayat et Mac Davis. Mais les questions des révoltes ont béni la conscience croissante de compter beaucoup et de n'avoir rien. Pentastel a répété souvent que ces luttes sont trop isolées, provinciales, mais nous assistons à une prolifération mondiale de phénomènes insurrectionnels qu'il n'est pas possible de passer sous silence. Dans les métropoles contemporaines nouvelles, dans laquelle le potentiel conflictuel est beaucoup plus élevé que dans le passé. La politique française, Sophie Baudy-Gendreau, en reprenant la célèbre affirmation de Michael Lipton, s'est déclarée surprise que la révolte dans les métropoles ne fût pas vu les conditions générales de vie. 5 ans, et c'est déjà de l'archéologie. Les nouvelles révoltes urbaines naissent de la concentration des contradictions, de la coexistence côté à côté des réalités urbaines marquées par des inégalités extrêmes, d'une asymétrie dans la distribution de richesses qui ne couvre les jeux. Grande ville, grande révolte, pour reprendre Walter Benjamin. Cette phrase prophétique va se rapporter, à mon avis, à l'histoire du XXIe siècle, pas à celle du